17h03, et ça tombe à Québec par endroit. Continue d'écrire 418-971-1021. Audrey nous parle d'un déluge à Wendake, Loretteville. Mes projections, en fait, je vais juste checker le radar, puis je vous dis ce que je vois sur le radar, là. J'ai pas grand mérite, là. Projections, prédictions, à l'effet que ça allait passer un petit peu plus au nord de centre-ville de Québec, mettons, là. Ça semble se concrétiser. On va se faire frapper un petit peu plus tard par des fortes pluies, mais pour ce qui est du plus important, ça devrait passer un petit peu au nord, là, du centre-ville, du moins, de Québec.
Pour te rendre heureux, il manquerait juste des orages, c'est ça que je comprends.
Ben là, ça a l'air qu'il y en a par endroit. Okay. Tantôt, on nous disait qu'à Saint-Émile, il y avait du tonnerre, mais encore là, on est un peu au nord, puis nous autres, notre fenêtre est de l'autre bord, fait que je vois comme pas d'orage, moi, en ce moment, fait que je suis pas comblé à ce niveau-là, mais on va être comblé avec une belle discussion dans les prochaines minutes. Je m'ennuyais de lui, ça fait longtemps qu'on y a pas parlé, c'est notre pharmacien préféré, Jean-Philippe Bergeron, qui est au bout du fil. Salut JP!
Bonjour!
T'es dans quel coin, toi, là?
Saint-Marc-des-Carrières, et ça tombait il y a une heure, l'enfer, là, c'était le déluge, puis là, ça s'est calmé un peu.
Bon, parfait.
J'aurais pas besoin de te texter, voilà l'information directe.
Ben voilà, merci JP. On voulait te parler aujourd'hui pour deux raisons. D'abord, un sujet qui était arrivé dans l'actualité déjà il y a quelques semaines de ça, même par le passé, c'est pas la première fois là, qu'on parle du Benadryl puis d'un certain débat à savoir si ça doit être en vente libre. Et là, il y a le Centre antipoison du Québec, qui s'est officiellement positionné contre la vente libre de diphénhydramine, qui est le Benadryl. Et ce qu'on nous donne comme gros argument, ben, c'est notamment la hausse des intoxications liées à ce médicament-là. Penses-tu que c'est la chose à faire d'enlever ça de la vente libre?
Définitivement, parce que l'argument de la hausse des cas d'intoxication est évidemment très, très solide, mais on peut très facilement rajouter un argument, c'est qu'il existe des alternatives beaucoup plus sécuritaires, aussi efficaces pour la plupart des besoins. Là, je comprends que les gens qui font des surdoses, il y a un bon pourcentage que c'est des gens qui n'ont pas respecté là, le dosage, mais ne serait-ce que pour les gens qui ont besoin d'un antihistaminique, il y a des produits beaucoup plus modernes, beaucoup plus facile à prendre et surtout beaucoup plus sécuritaire. Donc, moi, je suis totalement pour qu'on le retire des tablettes. Il peut garder sa place, dans le sens que sa place dans nos choix thérapeutiques. Et c'est ce qui va probablement arriver, puis en tout cas, je l'espère, c'est qu'il va être relocalisé derrière le comptoir, donc hors d'accès du public, mais sans nécessité d'une prescription.
Bibi, ça, c'est une question qui revient beaucoup à toutes les fois qu'on parle de ça, d'enlever de la vente libre puis de dire on va le mettre derrière le comptoir, que ça va rester accessible sans prescription. Puis là, souvent, les gens demandent, ben là, à quoi ça sert? Est-ce que c'est simplement le fait que au moins tu vas avoir le pharmacien qui va pouvoir avoir une discussion avec la personne qui veut s'en procurer pour y parler des dangers?
Ben oui, entre autres, le pharmacien va faire un counseling, mais avant tout ça, il va commencer par s'assurer que c'est le bon produit dont la personne a besoin. Puis dans certains cas, ça peut être effectivement ça. Et peut-être, dans d'autres cas, l'amener vers un autre produit qui va être plus intéressant, plus sécuritaire. Puis aussi, lorsque c'est derrière le comptoir, on appelle ça l'annexe 2, c'est hors d'accès du public, sous contrôle d'un pharmacien, sans ordonnance, mais ça nous oblige à faire une évaluation et ensuite confiner l'information au dossier. Et de cette façon-là, il y a un certain suivi qui se fait. Donc, des gens qui voudraient en utiliser pour la mauvaise raison, ils ont déjà une première barrière, là, ils doivent s'adresser au pharmacien. Puis, le pharmacien va contrôler les quantités qui sont remises en lien avec le problème de la personne, puis l'usage que la personne va en faire. Mais aussi, même si c'est sans ordonnance, lorsque c'est en annexe 2, le pharmacien a tout à fait le droit de refuser de le servir s'il pense que c'est pas approprié, que c'est pas le bon traitement, que ça comporte un risque, parce que Dieu sait qu'il y en a des risques avec ce produit-là. Donc, moi, je pense qu'on va juste assurer un meilleur usage, limiter le mésusage, puis tout le monde va être content, puis tout le monde va être servi s'ils ont besoin d'antihistaminique, parce que si c'est celui-là, c'est approprié, ils vont être capables d'avoir là, assez facilement en pharmacie. Mais le pharmacien va se commettre, puis qui va signer son nom sur le service de Benadryl, puis va être responsable de s'être assuré qu'au meilleur de sa connaissance, là, suite à l'entretien avec la personne, c'est effectivement le bon produit.
Mais est-ce qu'il y a vraiment des circonstances où c'est la meilleure option? Si oui, c'est quoi ces circonstances-là?
Moi, personnellement, le seul cas dans lequel je le recommande, c'est quelqu'un qui a une allergie quand même sévère, puis qu'il y a une réaction là assez rapide. Le plus fréquent, là, on voit des gens, il y a beaucoup de camping dans nos secteurs, là, des gens qui se font piquer par une mouche, puis tout à coup, ça se met à enfler rapidement. Ils font une réaction exagérée qui met pas la vie en danger. Là, c'est pas dans le cou, puis c'est pas quelqu'un, par exemple, qui est allergique aux guêpes, là, qu'à ce moment-là, ça prend une épipène s'il se fait piquer par une guêpe et une évaluation médicale. Puis quelqu'un qui a une piqûre, puis qui fait une réaction un peu plus forte que des simples allergies saisonnières, souvent, moi, j'aime bien commencer avec le Benadryl pour comme casser la chose, parce qu'il y aurait un potentiel un petit peu plus élevé, malgré que c'est en train d'être contesté là, par les études. Il y aurait un potentiel un petit peu plus élevé là, de casser une réaction allergique rapidement. Puis ensuite, on peut prendre le relais avec des antihistaminiques de deuxième génération là, qui ont beaucoup moins d'effets secondaires. Mais dans le cas d'une réaction, tu sais, un rash majeur, là, quelqu'un que je sais pas, il s'est baigné dans la boîte, puis là, il y a un rash sur tout le corps, puis il n'y a pas de motif de consulter un médecin immédiatement, mais il y a des symptômes très sévères. Dans ces quelques cas-là, entre autres, le Benadryl peut encore avoir sa place.
Est-ce que tu as l'impression que ça va se faire relativement facilement, l'interdiction du Benadryl en vente libre? Tu sais, je veux dire, qui va s'opposer à ça? Il semble y avoir pas mal un consensus. As-tu l'impression qu'on va aller de l'avant?
Moi, j'ai l'impression qu'on va aller de l'avant. J'espère qu'on va aller de l'avant. C'est sûr que les processus réglementaires, il y a toute une chaîne d'événements qui doit être respectée. Donc, est-ce qu'on va voir ça à très court terme? Je ne pense pas. Mais je ne verrais pas pourquoi on s'y opposerait. Et ce ne sera pas un cas unique, là. Il y a plusieurs produits qui sont en annexe 2 actuellement et depuis longtemps pour des raisons de sécurité comme ça. Puis, c'est pas, j'ai jamais vu d'aspect négatif à la chose.
Quand tu parles de produits en annexe 2, c'est quoi les exemples qu'on connaît le plus, tu sais, de produits comme ça, qu'on peut aller chercher sans prescription, mais qu'on va avoir à passer par le pharmacien?
Bon, l'exemple classique, là, c'est le Gravol, qui est un cousin, d'ailleurs, du Benadryl, ce qui va sûrement faciliter les discussions sur le sujet, là. Le Benadryl, là, tu l'as bien dit tantôt, bravo d'ailleurs, c'est du diphénhydramine, c'est le nom de la molécule. Alors, le Gravol, c'est du dimenhydrinate. Le nom se ressemble, c'est pas pour rien. C'est des molécules qui sont très apparentées. C'est des cousins, puis on le garde derrière le comptoir pour des raisons de sécurité. Il y a aussi certaines forces de Advil, aussi simple que ça. Là, le Advil qui est en tablette, en vente libre, ça va être du 200 mg. Il existe du 400 mg qu'on garde derrière le comptoir, en annexe 2. Puis, sinon, il y a certains sirops, des sirops contre la toux qui sont à base de codéine, qui pourraient être mal utilisés, mais aussi qui peuvent présenter des risques sérieux. Donc, on veut s'assurer que chaque personne qui part avec ça a en main l'information pour sa sécurité. J'ai même un exemple concret. J'ai un de mes patients qui, tristement, avait utilisé un produit qui a été retiré du marché depuis, là, mais qui était dans la même famille que le Benadryl. Ça s'appelait le Istantil. C'est un antihistaminique de première génération avec les mêmes inconvénients que le Benadryl, là, entre autres la somnolence, diminution de la vigilance. Puis lui, sous cette... il en avait utilisé. Je l'espère pour les bonnes raisons, mais bref, il a conduit son véhicule, puis a causé un accident de la route grave. Puis lui, ça fait 10 ans que je le connais, puis il est très peu fonctionnel à cause des séquelles de son accident, qui, selon le rapport du coroner, a été causé par l'utilisation du Istantil, qui a diminué sa vigilance, puis qui est en cause, là, la cause principale de l'accident grave qu'il y a eu là, dans le coin des chutes Montmorency en 2013, je pense, 2014.
À suivre. JP Bergeron, autre sujet dont on voulait parler avec toi, c'est dans l'actualité aujourd'hui, une pénurie d'opioïdes en pharmacie au Québec. Qu'est-ce qui explique cette situation-là? C'est quelque chose qui vient de toucher, toi?
Oui, ça nous touche. Le terme pénurie d'opioïdes n'est pas faux, mais on peut facilement le filtrer un peu pour dire il y a une pénurie beaucoup plus spécifique là, de une à deux forces d'un opioïde en particulier. Okay. Donc, c'est pas une pénurie d'opioïdes là, at large, que tous les médicaments, là, tous les opiacés sont touchés. C'est vraiment très spécifique. Donc, c'est le dilodide et son générique dans les forces de 1 et de 2 mg pour lesquelles il y a des difficultés d'approvisionnement en ce moment. mais c'est pas un problème généralisé. C'est que éventuellement il y a eu probablement un problème avec approvisionnement d'un des ingrédients actifs ou pas, ou un problème des fois dans une usine. Des fois, ça peut aussi être lors de l'importation des matières premières, là, ce qu'on appelle un import ban, c'est qu'ils vont comme bloquer des choses aux douanes plus longtemps que prévu. Puis là, il s'agit que une compagnie soit retardée dans sa production, ce qui fait que toutes les gens qui en utilisent, ou en tout cas tout ce qui est distribué, doit être distribué via le médicament original ou l'autre compagnie qui fait du générique, ce qui augmente leur demande soudainement. Donc, eux autres, tout à coup, sont plus capables de fournir parce que la demande a été augmentée là, de façon très rapide. Puis là, ça fait un problème de back-order, puis de back-order rebond. Puis c'est très, très fréquent en pharmacie. Puis ça touche tous les médicaments. Effectivement, en ce moment, il y a un problème avec le Dilaudide 1 et 2 mg et ses génériques. Il semblerait que ça va être réglé là, d'ici 6 à 8 semaines.
Est-ce qu'on a des alternatives en quantité suffisante pour répondre à la demande?
Tout à fait. Dans le fond, en ce qui me concerne, dans mes succursales en ce moment, il n'y a personne qu'on a eu besoin même de se tourner vers une alternative qui serait une autre molécule de la même famille, un autre opiacé. C'est plutôt que les gens, mettons, qui prennent les plus grosses quantités, ben, on va leur servir une semaine à la fois pour se garder du stock parce que ce qui arrive à ce moment-là, quand il y a un BO, les grossistes vont rationner les quantités que chaque pharmacie peut commander pour pas qu'il y ait un intelligent qui dise hey, « moi, je vais en commander une batch, puis là, ben, tout le monde va venir chez nous. » Donc, c'est réparti là de façon stratégique dans toutes les pharmacies. Puis, j'ai pas vu personne qui en a manqué. Alternative, changer de molécule, je l'ai pas vu encore. On a des alternatives comme donner une force un peu plus élevée, mais couper les comprimés. Ça, c'est une chose. Puis nous, ben, la gestion de nos inventaires puis le volume qu'on distribue à la fois peut aller là, aider à éviter que quelqu'un en manque. Mais j'ai pas vu personne, à ma connaissance, là, qui n'a pas pu être servi. Puis dans les médias, ils parlent beaucoup. Il y a des gens qui peuvent attendre jusqu'à 48 heures. En fait, là, de ce que j'en comprends, là, à moins qu'il y ait des choses que je sache pas, c'est pas que les gens en ont plus et doivent attendre 48 heures sans traitement, parce que ça, ce serait pas acceptable. Puis on passerait à une alternative, c'est plutôt qu'on va encourager les gens à appeler d'avance pour nous aider à gérer les stocks en fonction des demandes, faire un peu plus de forecast sur qu'est-ce qu'on va avoir besoin, qu'est-ce qu'on distribue. Donc, le problème est réel, puis il atteint tous les grossistes, toutes les chaînes et bannières de pharmacie, parce que c'est pas le grossiste le problème, c'est les fabricants. Puis, mais à ce que je sache, là, il y a pas d'enjeu majeur, puisque le retour à la normale est déjà prévu là, selon là, les fabricants.
JP, je suis curieux, avant de te laisser partir, qu'est-ce qui cause le plus de visites en pharmacie dans cette période-là de l'année, en plein mois de juillet, vacances de la construction, des petites familles qui sont en vacances un petit peu partout, puis qu'est-ce qui amène le monde à la pharmacie?
Écoute, c'est très intéressant, puis je pourrais te répondre en 20 minutes, je sais que c'est pas ça que tu veux. La réponse, c'est que ça varie beaucoup selon les régions où est-ce qu'on est.
Ah ouais.
Par exemple, en Estrie, j'ai une succursale en Estrie, les tiques, c'est catastrophique. Là, on en a une douzaine de cas de tiques par jour.
Wow.
Donc, je te dirais, ça se démarque. Sinon, ben, si on parle d'une succursale comme Saint-Ubalde, il y a des gros campings là, voisins. Donc, beaucoup de gens qui ont oublié leurs médicaments, qui ont une petite blessure mineure, des coups de soleil, des petites indigestions. Fait que je te dirais, ça varie beaucoup. Mais oui, la période des vacances modifie un peu là, la demande versus la demande en plein mois de janvier. Mais ça dépend beaucoup là, des secteurs. T'es-tu une région touristique ou pas? On a un petit peu de tout, mais des coups de soleil, des piqûres de mouches, des déshydratations mineures, des tiques.
Mais les tiques, ça, je veux pas prendre trop de ton temps, mais ça m'a accroché sans faire de mauvais jeu de mots. Ça, à ta connaissance, est-ce que c'est pire que les années antérieures?
C'est en évolution constante. Alors oui, la demande est de plus en plus présente. C'est par secteur, puis ça s'étend. Puis moi, je le vois dans ma succursale qui était... Vois-tu, à Saint-Ubalde, Saint-Marc-des-Carrières, j'ai peut-être un cas de suspicion de tique par année, alors qu'au Lac-Beauce, on en a 10 par jour tout l'été. Mais il y a 3-4 ans, c'était peut-être 3 à 6 par jour. Là, je te lance des chiffres comme ça, là, mais je vois voit dans les secteurs qui sont déjà atteints une croissance là, non négligeable. Il n'y a pas de doute.
Jean-Philippe Bergeron, notre pharmacien préféré, merci beaucoup pour ton temps puis on se reparle bientôt.
Hey, merci.
Salut mon ami, bye-bye. Jean-Philippe Bergeron, pharmacien. Au retour, les nouvelles avec Mathias Turcotte. Puis je vous gâte, j'ai encore 2 billets pour la zone Kepler pour le match boulevard des Capitales de Québec le 20 août prochain. Je vous donne ça. Préparez le 418-971-1021. Texto.
Le retour